C'est justement ce dont je souhaiterais que l'on parle ce soir, c'est de cette difficulté à reconnaître la situation de destruction qui n'est souvent pas du tout facilement repérable ni par un tiers, ni par la victime elle-même. Pourquoi ? Parce que la majorité des abus se passent dans la douceur et donc dans le mensonge trompeur d'une relation. Oui, la personne, dans la réalité, est agressée en sa chair, en sa psyché, en sa conscience, en son âme, mais au moment même de l'agression, la personne, enfant ou adulte, ne se rend pas compte de la destruction ou tout au moins de la perte des repères qui s'opère en elle. Elle croyait que l'autre agissait pour son bien alors qu'il n'en était rien. Le maître mot dans ces affaires-là, c'est à l'insu. Ça s'est passé à l'insu de la personne. L'enfant, par exemple, est trahi dans sa confiance, voire en admiration en l'adulte que tout le monde vénérait. Ou ce prêtre qui aidait sa mère à vivre en lui faisant des cadeaux. Ou cet ami des parents si sympathique. Ou ce prêtre qui donnait le pardon de Dieu et agissait pendant ce temps en ordure. La violence de l'acte est extrême et en même temps non perceptible par celui qui l'a subi. Je reprends des termes qui m'ont été dits par mes patients. J'avais 8 ans, me raconte une patiente. On regardait la télé. C'était sympa car chez nous, il n'y avait pas de télévision. Et il glissait sa main dans ma culotte. J'avais peur, mais je ne disais rien. J'étais transformée en statue. Et le pire, ajoute-t-elle, c'est que j'ai continué à y aller. Personne ne me forçait. Ou sinon, au goûter d'anniversaire de ma meilleure amie, il m'a prise sur ses genoux et d'une main, je tenais mon gâteau et avec l'autre, il me faisait caresser un truc dur et chaud. Il y a eu le film sur TV5, je crois, sur les religieuses abusées. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. Il y a eu un film sur les religieuses abusées qui est passé et repassé récemment. Il y a eu quelques années, il est repassé récemment. À sa suite, certaines personnes ont dit « Mais moi, je ne me serais jamais laissé faire. » Oh, voilà, moi j'aurais pas... Quand les gens me disent ça à moi, ils ne savent pas à qui ils le disent. Donc, voilà. Bon, et donc, je ne me serais jamais laissé faire. Dire cela, c'est largement méconnaître le phénomène d'emprise. Et c'est ce phénomène d'emprise qui va empêcher la prise de conscience de la réalité et de la gravité de ce qui est en train de se passer. Je vais vous illustrer l'emprise par le récit d'une de mes patientes. J'en ai malheureusement des centaines d'autres. C'est l'histoire d'une religieuse qui est aux anges, car un certain prêtre, très reconnu, très charismatique, a accepté d'être son accompagnateur spirituel. Tout le monde lui fait confiance. Fait appel à lui, à ce prêtre, se réjouit de le connaître. Après quelques rendez-vous normaux, l'accompagnateur un jour se plaint d'un mal de dos et demande à la religieuse de le masser. Alors étonnée, cette dernière hésite. Elle est réconfortée car l'accompagnateur lui dit qu'il a des rendez-vous très importants cet après-midi et qu'il n'a pas le temps d'aller chez son kiné. La religieuse accepte car agir en kiné, ce n'est pas dangereux. La chose se renouvelle et la religieuse accepte car elle pense maintenant qu'en faisant cela, elle participe au beau travail de cet accompagnateur. Et puis d'ailleurs, se dit-elle, cela vient sûrement de Dieu puisque son rêve à elle quand elle était petite, c'était de devenir kiné. Puis un jour, l'accompagnateur lui fait remarquer qu'elle semble tendue, que ses massages sont hésitants, ne correspondent à rien et sont plutôt énervants. La religieuse se sent humiliée, elle a envie de pleurer, car pourtant elle s'applique vraiment. Voyant qu'elle est triste et qu'elle a envie de pleurer, le bon prêtre, entre guillemets, la prend dans ses bras pour la consoler. Il lui dit qu'il va lui montrer lui-même comment faire, et il la masse. La religieuse a un sursaut de lucidité et demande à prier, car elle ose enfin dire ce qu'elle ne cesse de penser, où est mon accompagnement dans tout cela ? Parce qu'elle le masse, mais il n'y a pas d'accompagnement spirituel. L'accompagnateur la gronde de cette demande. Comment peut-on prier quand on est tendu comme elle l'est? Car on doit prier de toute son âme, mais aussi de tout son corps. Mais comme il est très bon, entre guillemets, ils vont le réciter le chapelet ensemble quand même, en se massant mutuellement. L'histoire est vraie, hein, ce que je veux dire, j'en ai pris une légère, hein, pour ne pas vous choquer, mais voilà. La religieuse se sent très triste, voire humiliée, d'être ainsi si nulle que l'accompagnateur ne puisse l'accompagner spirituellement, spontanément. Parce que les autres, elle, ce qu'on lui avait appris, c'est qu'on n'avait pas besoin de massage, donc elle s'est dit, je dois être vraiment nulle et ne pas vivre ma foi dans mon corps pour que maintenant je sois obligée d'être massée. Alors elle entre dans une grande honte d'elle-même. Jusqu'alors, elle n'avait jamais douté de sa vocation. Et là, elle commence à en douter. Parce qu'elle se dit, si je dois pour pouvoir avoir un accompagnement, si je dois pouvoir être massée, c'est que vraiment, je suis très loin de ma vocation. Mais elle ne doute pas de sa vocation parce qu'elle est attirée par le prêtre, parce qu'en réalité, ce prêtre la dégoûte physiquement. Quelle belle communion, s'exclamera l'accompagnateur en fin de séance de massage chapelet. Je crois finalement vraiment que le Seigneur nous a choisis pour vivre de grandes choses ensemble. Vous voyez là la problématique, tout d'après la problématique de l'abus spirituel. Il y a l'abus sexuel, puisqu'il la touche, mais il y a l'abus spirituel. La religieuse est perdue. Elle va essayer timidement d'en parler à sa supérieure, qui lui répondra, avant qu'elle n'ait le temps d'en dire plus, « Vous avez la chance d'être accompagnée par le prêtre Trucmuche, alors s'il vous plaît, ne vous plaignez pas. » Alors la religieuse choisit alors, presque inconsciemment, de ne plus penser par elle-même, puisque sa pensée semble pratiquement toujours hors de propos. Elle s'en remet alors complètement à l'accompagnateur. Le prêtre, plus tard, fera remarquer à la religieuse qu'il préserve sa virginité, car jamais il ne touche à son vagin. Il se moque d'elle quand, dans un dernier sursaut, elle lui fait remarquer que cela ne lui semble pas conforme à son vœu de célibat. Il lui dit « Les jeunes de 15 ans font bien plus. » Voilà. La jeune sœur a fait une tentative de suicide et c'est lors de l'hospitalisation qu'elle a pu parler. Et un procès est aujourd'hui en cours pour viol. Les exemples, et dans le monde civil et dans le monde religieux, sont malheureusement trop nombreux. Mais toutes les personnes que j'ai reçues, hommes et femmes, il faut que vous le sachiez, étaient des personnes intelligentes et douées de jugement. Mais la puissance de l'emprise a fait basculer leur vie. D'une vie innocente, simple, belle et parfois priante, les personnes sont entrées dans l'enfer de l'incompréhension et de la dissociation psychique, voire de l'autodestruction. On peut se poser la question, mais quel est l'intérêt de mettre l'autre sous emprise? On le voit dans notre exemple, il s'agit d'une personne qui est en recherche, et cela peut être des recherches très diverses, des recherches spirituelles, de relation à Dieu, mais c'est aussi, les personnes peuvent être en recherche d'où aujourd'hui il y a beaucoup de choses autour de l'écologie, du mieux-être, voilà. Et en face d'elle, en face de cette recherche, il y a un autre qui va opérer un rapt de son désir, de son bon désir. Pourquoi il va y avoir ce rapt, ce désir? Eh bien, c'est au profit du narcissisme de l'abuseur et de ses intérêts particuliers, que sont le pouvoir, l'argent, le prestige, le sexe. Au profit d'un projet, bon ou mauvais, en tout cas ayant l'apparence du bon, de l'indispensable. Par exemple, la personne va être mise sous emprise pour favoriser le travail une construction d'une chapelle. Donc la personne va se dire, c'est important, bon ben je souffre, j'y comprends rien, mais c'est pour construire une chapelle, ou bien c'est pour la préservation de la nature, ou bien c'est pour l'organisation d'un camp de jeunes. Donc au profit du narcissisme, au profit d'un projet, au profit d'une cause, par exemple le rachat des âmes du purgatoire, la santé du supérieur de la communauté, la détresse des enfants d'un pays en guerre. Ou bien encore, il peut y avoir des mises sous emprise parce que quelqu'un est guidé par sa folie et va entraîner d'autres personnes dans sa folie. Les techniques, il faut le savoir, les techniques de mise sous emprise sont les mêmes, que ce soit chez les chrétiens, chez les musulmans, chez les athées ou chez les autres. En tout cas, le projet ou la cause, ou l'intérêt particulier, vont devenir un enjeu supérieur à l'équilibre de la personne elle-même, à la fois psychologique et spirituelle. La fin va justifier les moyens, tous les moyens. Mais dans tous les cas que je vous ai cités, la personne va être utilisée, réifiée, chosifiée. Elle peut être utilisée dans ce système d'emprise, elle peut être utilisée comme un pion. La personne, l'abuseur, va l'utiliser parce que il a besoin d'elle pour réaliser quelque chose. Mais elle peut être utilisée aussi comme réceptacle de la personnalité de l'abuseur. C'est-à-dire que l'abuseur va se servir d'elle pour lui faire jouer ce que lui ne joue pas, ne fait pas. Donc il va vider la personne vider la personne d'elle-même et puis va l'utiliser, va la remplir de lui-même et lui faire jouer, va lui faire même être ce que lui aurait aimé être et qu'il ne veut pas montrer qu'il est. Ça, dans certaines communautés religieuses, c'est absolument terrible ce qui s'y passe. Alors, maintenant, je vais développer les techniques de mise sous emprise. La mise sous emprise est un processus. Ce processus, il est court. Il peut être de quelques minutes, en particulier chez les enfants. Ou il peut être long, parfois durer des années. Et ce processus va endormir le discernement ordinaire et le bon sens. La première étape consiste, pratiquement toujours, en une accroche qui n'est pas saine. Elle est faite de quoi, cette accroche qui n'est pas saine? Elle est faite soit de séduction, soit de sollicitude, soit de flatterie, soit de sollicitation. La séduction, j'ai développé la séduction. La proposition qui est faite est exactement adaptée aux attentes de la personne visée, que ce soit pour un accompagnement particulier ou une entrée dans un groupe. Le séducteur, qui est souvent extrêmement futé, va agir en miroir par mimétisme, excusez-moi. C'est-à-dire qu'il va percevoir très vite quelles sont les attentes de la personne cible et il va s'y adapter complètement. Et donc la personne qui est ciblée va tout d'un coup se reconnaître en l'autre. Il va dire, mais il est génial, c'est ça vraiment que j'attendais. Ben oui, évidemment, c'est lui qui voit. Vous voyez, donc l'autre va complètement, ça c'est le mouvement de séduction. Et la personne, à ce moment-là, se sent reconnue, comprise par une personnalité remarquable pour son intelligence, sa beauté intérieure, ses capacités. Le séducteur dit souvent qu'il est un spécialiste, que rien ne lui résiste, qu'il sait tout, qu'il comprend tout et qu'il jouit de dons hors du commun. En plus, l'abuseur, le plus souvent, se présente comme un modèle de vertu et la personnalité sociale est irréprochable et c'est pour ça qu'il n'est pas reconnu de l'extérieur. Après cette première étape d'une accroche qui n'est pas saine et qu'on pourrait comparer à ceux qui font de la pêche à la ligne, je ne sais pas si on fait beaucoup de pêche à la ligne à Valence, mais en gros, le poisson a mordu à l'hameçon. Ça, c'est la première étape, celle de l'accroche. Après, la deuxième étape, c'est la mise en place du lien de dépendance. La personne va devenir dépendante de l'abuseur. Comment est-ce que ça va réussir à se mettre en place? Eh bien, d'abord, il va y avoir un isolement. La personne, on va lui dire, eh bien, il faut que tu quittes ta famille, tes amis, etc., pour progresser plus rapidement. Ou bien il va y avoir le partage de confidences, de secrets, ou bien également, je ne vois pas, je suis désolée, je n'ai pas sorti mes lunettes. Dis-moi un tout petit peu plus pour mes 40 minutes, vous croyez?
On a plus de temps.
Mais non, mais j'ai compté quand même. Bon, mais alors attendez, votre panneau, il faut que vous le mettiez là où je sorte mes lunettes, parce que sinon, on est foutu. 10 minutes, là. Bon, alors je me dépêche. Un quart d'heure. Voilà. Voilà. Alors, je vais aller plus vite. Donc, aussi, la mise en dépendance, le caractère exceptionnel à la relation. Nous vivons quelque chose de très fort, de tout à fait nouveau, de vraiment divin. Mais aussi des échanges de promesses. Les échanges de promesses créent des liens très très forts. Nous resterons toujours en lien, sans vous je ne suis rien. Voilà. Cela aboutit à la suppression de la liberté. En gros, le poisson est ferré. Et il est d'abord mordu à l'hameçon maintenant. Après cette étape de dépendance, Eh bien, il y a des maltraitances qui apparaissent, des successions. Après toute la bientraitance qu'il y a eu, il va y avoir des maltraitances. Et lorsque les maltraitances vont arriver, comme la personne est dépendante, la victime ne s'en ira plus. Elle a vécu trop d'expériences positives pour comprendre ce qui lui arrive. Et elle se culpabilisera de mettre en doute le bien et la bonté de l'abuseur, et elle éteindra progressivement sa capacité à discerner. Elle croira que c'est elle qui n'a plus la capacité de recevoir tout le bien que lui dispense celui qui en réalité abuse d'elle. Alors, ces maltraitances, elles peuvent exister dans un cadre laïque ou dans un cadre religieux, quel qu'il soit. Elles peuvent être de personne à personne ou elles peuvent être institutionnalisées. Ces maltraitances, ce peut être des abus financiers et administratifs, ce peut être de la manipulation mentale, proprement dite, allant de la grossière manipulation mentale à des choses beaucoup plus subliminales. Mais en tout cas, il ne s'agit pas souvent de dire « mais c'est un petit différent que tu as avec l'autre ». Non, lorsqu'il y a une répétition de maltraitance, de petite maltraitance, eh bien ça équivaut à une grosse maltraitance, et c'est ce qu'on appelle la manipulation mentale. Il peut y avoir également des abus physiques, carrément. J'ai vu dans des communautés des coups et des blessures, mais beaucoup aussi des prescriptions abusives de psychotropes, avec ou sans consultation d'un psychiatre. Ça peut être l'accompagnateur qui donne qui n'est pas médecin et qui dit « vous prendrez ça ». Voilà, il y a le non-respect d'un minimum de sommeil, des surcharges de travail. Voilà. Bah, évidemment, il y a très malheureusement tous les abus sexuels qui vont de l'exhibitionnisme au viol, en passant par le harcèlement sexuel, l'atteinte sexuelle, l'agression sexuelle. On le voit dans ce que je viens de décrire précédemment, l'abus touche les relations humaines, les femmes et les hommes entre eux. Et l'un d'entre eux va s'ériger en gourou, en dictateur, va prendre un ascendant mortifère sur l'autre, anéantissant à son insu la liberté de l'autre. Les abus spirituels, et ça va me permettre de faire le passage avec mon voisin de gauche qui traitera plus spécifiquement sur le plan théologique des abus spirituels, les abus spirituels aggravent l'impact des maltraitances car viennent toucher le cœur même des personnes. On sort de l'horizontalité des relations humaines pour entrer dans la verticalité. Je vous donne un exemple. Denis est un homme simple, aujourd'hui âgé de 78 ans. À 13 ans, il part en camp de vacances, camp qui est accompagné par un prêtre. L'un des jeunes tombe malade. Le prêtre propose de rester avec lui pendant que les jeunes font leur grand jeu de piste. Les jeunes ont fini plus tôt que prévu et rentrent au camp. Ils trouvent sous la tente le prêtre allongé nu sur leur camarade. Ni une ni deux, les jeunes tirent le prêtre par les pieds et le sortent de la tente. Le curé prévenu vient, les gronde d'avoir maltraité le prêtre, interrompt le camp et dissout le groupe, interdisant aux jeunes de se revoir. Les jeunes ne peuvent qu'obéir. Je demande à Denis, mais tu n'as plus revu personne ? Non. Tu n'es plus allé à telle abbaye ? Non. À cette époque, le téléphone portable n'existait pas encore. Et Denis, qui aujourd'hui a 78 ans et qui n'a jamais plus remis les pieds dans une église, de me dire, tu comprends ? C'était un prêtre. C'est comme si c'était Dieu qui avait violé Charles et comme si Dieu ne voulait plus de nous, s'était débarrassé de nous. Et c'est toujours la même histoire. Ce que vivent les personnes abusées dans un cadre spirituel, c'est que Dieu lui-même, ou une puissance de vie, qui les a trahis. Et Denis, qui était issu d'une famille aisée et intellectuelle, va avoir suite à cet événement comme une fonte de ses capacités intellectuelles, et toute sa vie en sera touchée, dégradée. Lorsque l'abus est commis par un parent, par une personne ayant autorité, la relation transgénérationnelle est touchée. Lorsque l'abus est commis par un représentant religieux, c'est la transcendance qui est touchée. Il s'agit de la trahison la plus haute, celui en lequel la personne avait mis sa confiance, celui devant lequel elle s'était mise à nu, celui-là même qui devait la mener à Dieu ou à une transcendance, celui qui devait être le bon guide, celui-là a fait quelque chose d'incompréhensible et a saccagé la confiance et parfois l'innocence. La personne n'a alors plus aucun recours. La personne a été trahie dans sa recherche du beau, du bien, du bon. La personne a été trahie dans sa recherche spirituelle C'est une agression qui touche directement le spirituel en elle, c'est-à-dire l'intime de sa personne, le lieu de sa croyance en la vie, le sanctuaire de son âme, le lieu saint de la rencontre. En somme, ce lieu sacré et unique à chaque être. Les méthodes de l'abus spirituel, les méthodes utilisées vont piocher dans les trésors propres à chaque mouvement spirituel. Il y a d'abord les textes, que ce soit la Torah, la Bible, le Coran, le canon bouddhique, mais aussi la théologie. Et les textes sont sortis de leur contexte, sont dévoyés et sont utilisés de manière frelatée et orientent les personnes non pas vers plus de liberté, plus de conscience, mais vers un enfermement idéologique. Il y a les rites et les symboles aussi, qui sont là, qui normalement sont là pour faire accéder à un plus grand, à plus de liberté, eh bien vont enfermer les personnes dans des stéréotypies et obsessionnalisent les victimes. Dans certaines congrégations religieuses, ce n'est pas la relation à Dieu qui compte, je le sais parce que c'est une de mes patientes qui était supérieure dans une de ces congrégations, eh bien, ce qui compte, c'est la manière dont on marche, monte les marches pour aller à l'autel. Voilà. Il y a aussi les vertus. Les vertus qui sont utilisées. Les vertus qui sont... Je regarde votre papier. Les vertus... Je me dépêche. Les vertus que l'on retrouve dans différentes religions qui sont utilisées pour abuser. Tout ce qu'il y a de bon peut être dévoyé, que ce soit l'obéissance, que ce soit l'humilité, que ce soit le don de soi. Imaginez le don de soi, c'est beau. Et bien, le don de soi transformé, donne-toi plus, jusqu'où ça peut aller. Le pardon qui peut être inversé, c'est la personne qui a abusé qui veut que l'autre lui demande pardon. Il y a le silence, retire-toi dans ta chambre et prie. Et bien là, le silence est imposé aux personnes pour qu'elles ne disent pas ce qui s'est passé. Il y a la compassion, on l'a vu dans mon exemple. Aide-moi la personne, fais-moi un massage pour que je puisse moi aller évangéliser. Il y a la miséricorde qui pardonne et protège l'abuseur et surtout qui ne pose pas l'interdit. Il y a la louange qui peut devenir déni de réalité, voire acte magique. Il y a l'aumône qui peut servir à dépouiller un croyant de ses biens au seul profit d'un gourou. Il y a le jeûne qui peut être utilisé avec excès pour affaiblir la personne, la rendre plus malléable et lui faire perdre son discernement. Et il y a à l'ultime de l'abus spirituel, dans ce que j'ai rencontré ces dernières années, ce sont les exorcismes. Ce sont qui, lorsqu'elles sont mal, et j'en parle parce qu'il y a eu Rome est venu et a vérifié les sujets, donc j'en parlerai pas comme ça, parce que c'est pas... Et les exorcismes peuvent être des armes redoutables pour faire taire des personnes. Devant tout questionnement, toute critique, il est demandé de rencontrer le responsable spécialisé, et spécialisé soit dans la prière de délivrance, soit dans l'exorcisme, et la prière viendra sceller l'abus dans le silence et la culpabilité d'une soi-disant infestation démoniaque. C'est là où j'ai touché, moi, de plus près, les plus grands abus spirituels. Voilà. On peut vraiment dire que la mise sous emprise, c'est-à-dire l'enfermement dans un système annihilant la conscience et la liberté, est très grandement facilitée par les abus spirituels. Dans sa recherche d'aide et sa confiance en l'autre, la victime est trompée. Sa croyance, sa foi, quelque chose de fondamental, support de son identité, est bafoué. Un traitement, il faut le savoir, comme cela entraîne chez la victime une très grande confusion, voire une dissociation, une perte d'identité, une dépersonnalisation, auquel s'associe une perte des acquis antérieurs, des gens qui étaient intelligents, on a l'impression qu'ils n'ont plus de neurones, mais aussi des maladies physiques et des maladies mentales. Je n'ai pas le temps de vous les détailler, parce que sinon elle va me mettre son gros panneau que je ne vais pas voir là-bas. À l'extrême, on assiste à des situations pouvant être qualifiées de torture, et j'ai utilisé ce terme-là de torture face à... aujourd'hui, il y a des recherches qui sont faites par la justice civile, parce que j'ai osé parler de torture. Et j'en reparlerai s'il était besoin. À la place de cheminer vers plus de liberté et d'amour, la victime d'emprise est trahie et s'enfonce vers la mort. Non pas la mort à soi-même, comme décrite par saint Paul dans l'Épître aux Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, mais c'est une mort psychique, voire spirituelle, au profit de l'abuseur. un abuseur s'est placé en travers de son chemin. Il va à l'extrême prendre possession de la victime après l'avoir vidée d'elle-même. On peut alors parler de viol de l'âme. Il s'agit d'une trahison, la pire des trahisons, l'ultime trahison, celle de la confiance en Dieu ou en un principe de vie. Voilà, je vous remercie. Ça va.